remercie à mon tour chaleureusement les intervenants et le public. Qui est là aujourd'hui pour assurer donc la réussite de cet événement un peu particulier pour l'université française et qui est rendu possible, qui a été rendu possible par le soutien scientifique de l'association Modernité Médiévale. Qu'on préside à Troyes avec Anne et Vincent et qui s'intéresse aux résurgences du Moyen-Âge dans la littérature et plus largement dans l'ère culturelle depuis le romantisme et qui réunit des universitaires et des différents spécialistes et professionnels, et le soutien financier du Centre de Recherche sur les Nouveaux Espaces Littéraires, le CNEL de Paris 13, qui nous accueille aujourd'hui. Donc c'est un événement un peu particulier puisque après un premier colloque consacré à la fantaisie, au merveilleux médiéval dans la fantaisie que j'avais co-organisé à Arras en 2006, qui était un colloque plus classique, notre volonté, donc à Anne, Vincent, moi et les autres, de faire entrer ce genre dans la recherche académique plus rapidement que ce n'a pu être le cas historiquement pour des genres comme le roman policier ou la science-fiction qui ont mis des décennies à entrer à l'université. Le but donc est de coordonner et de diffuser un maximum les travaux qui émergent autour de ce genre, et pour ça il nous a semblé nécessaire de disposer d'une sorte d'instantané, d'un état des lieux de la fantaisie en France pour servir notamment donc aux recherches futures sur ce domaine. Une des difficultés qu'on rencontre, nous, littéraires, travaillant sur les textes, quand on s'intéresse à ce domaine de la fantaisie, c'est en fait de prendre suffisamment en compte l'articulation entre les aspects artistiques et économiques du texte, du travail sur le texte. Et c'est un des grands intérêts que présente pour nous la réflexion sur la fantaisie, puisque c'est un genre de constitution récente, et que son identité est quasiment une invention éditoriale, voire un label marketing, et que c'est pour nous très intéressant dans la perspective de cette articulation entre l'artistique et l'économique. Et comme on a donc la possibilité de prendre directement nos renseignements à la source, on s'est dit qu'on allait donc se saisir de cette occasion pour construire une passerelle, ou la matérialiser, cette passerelle, entre d'une part les productions et leurs auteurs, l'activité professionnelle et concrète que suscite un genre, et d'autre part la réflexion théorique qui peut ensuite s'en saisir. Alors je vais préciser un peu les contours de ce qu'on entend faire aujourd'hui, sous le titre très large et donc un peu trompeur de la fantaisie en France aujourd'hui. Notre parti pris, ça a été de se centrer sur ce qui est produit en France, plutôt que sur ce qui est consommé en France, puisqu'on le sait tous, ce qui est vendu, lu, regardé dans notre pays, ce sont essentiellement des productions anglo-américaines, des productions internationales, mondialisées. C'est évidemment un point essentiel qu'on va aborder, puisque ces productions sont éditées, diffusées, traduites en France, et qu'elles constituent une part importante du marché. Mais on a choisi de déplacer le curseur, c'est-à-dire à partir de ce constat absolument partagé d'une émergence frappante du genre de la fantasy depuis, disons, une grosse dizaine d'années en France, dans l'industrie culturelle et les pratiques de consommation. On va chercher à en évaluer les conséquences sur la production française, c'est-à-dire la façon dont les Français peuvent ou non en tirer les fruits, la façon dont ils s'en approprient les codes, dont ils en reproduisent les succès, ou dont ils essayent de leur donner des contours plus singuliers, un peu différents que de ce qui a pu être produit avant. Alors ce parti pris de se concentrer sur la production française explique pour une part l'absence de qui vous a peut-être frappé de deux grands domaines, qui sont celui du jeu et celui de la bande dessinée. Le jeu est très faiblement présent dans notre programme, parce que ce sont les éditeurs américains qui dominent très massivement le marché, même si les choses là aussi évoluent. Un jeu français comme Dofus fait partie des préférés des adolescents dans notre pays. Bon, l'autre explication, c'est qu'on a un autre projet de colloque avec Benoît Berthoux en infocom sur ce sujet qu'on aurait pu difficilement ne faire qu'effleurer, hein, un projet de colloque sur les univers partagés dont on pourra reparler plus tard, qui est encore à l'état de projet. Bon, en outre, notre spécialisation à tous les trois, donc avec Vincent et Anne, la littérature comparée, le rapport texte-image dans le cas d'Anne Larue, a aussi entraîné, hein, tout bêtement, des limitations pratiques dues à notre propre réseau et à nos propres domaines de compétences, ce qui explique la quasi-absence de la bande dessinée, à l'exception notable quand même de collègues et amis universitaires spécialistes de ce domaine, donc Benoît Berthoux ou Florence Play. On a quand même la chance, hein, que dans les domaines de l'imaginaire, les supports s'entrecroisent constamment et que, en conséquence, nos auteurs, éditeurs, illustrateurs touchent à la novélisation, à la scénarisation de BD, au graphisme de jeu ou à l'animation, si bien que ça nous permettra, via ce gros plan sur l'industrie du livre, hein, d'avoir quand même une première approche sur les interactions avec les autres médias. Bien, alors ces limites posées, la question qu'on va soulever, c'est donc la fantaisie en France, qu'est-ce que c'est ? Une question dont l'intérêt tient à ce qu'on peut y apporter plusieurs réponses, hein, et l'enjeu va être de déterminer comment on peut les faire coexister et voir les concilier. En effet, la fantaisie en France aujourd'hui, c'est d'abord, ça peut être dit de manière un peu provocante, mais autant soulever tout de suite les questions dont on va débattre plutôt que de feindre de les ignorer, la fantaisie en France, c'est Bragelonne. Hein, Stéphane Marsan est là. Les chiffres sont là aussi, le nombre de titres, l'exposition commerciale, les exemplaires vendus, donc c'est une réalité économique incontestable, incontournable. Et au-delà, cette réussite est primordiale parce qu'elle imprime une marque décisive sur la perception que le public français se fait du genre aujourd'hui. Et on peut même avancer que Bragelonne, dans la lignée des pionniers de Multissim et des premières années de Mnemos, a quasiment inventé la fantaisie en France. On va en discuter. Mais il y a un avant et un après. Il y a une véritable reconfiguration du marché et donc des frontières respectives des genres de l'imaginaire dans l'espace éditorial français depuis une dizaine d'années. Même si Tolkien et les jeux de rôle n'avaient pas du tout eu besoin de cette vitrine pour pénétrer en France, il n'y avait pas, il y a 10-15 ans, de corpus immédiatement identifiable comme de la fantasy. D'autres genres occupaient ce rayon dans les librairies et dans les bibliothèques. C'était le fantastique et la science-fiction, deux domaines d'ailleurs clairement victimes de la reconfiguration des différents genres dont je viens de parler. Et une reconfiguration donc, qui fait qu'aujourd'hui, c'est le genre fantasy qui est le pôle d'attraction, le plus identifiable et le plus représenté, à la fois dans les rayons des librairies et dans l'imaginaire partagé des lecteurs et des consommateurs. Donc cet acquis très récent, qui a profité à l'évidence d'énormes succès globalisés comme celui de J.K. Rowling ou celui des films de Peter Jackson, qui a donné une autre dimension au genre, pour ce qui concerne l'édition en France, il est donc largement à mettre au crédit des responsables de Bragelonne et de leur intuition d'une espèce de label comme ça dont ils ont repéré le potentiel et qui très rapidement va prendre une identité suffisamment forte, ce label, pour constituer un genre qu'on reconnaît en tant que tel, la fantaisie. Mais ce dynamisme, c'est aussi une évidence et c'est l'autre partie de cette question, qu'est-ce que c'est la fantaisie en France aujourd'hui, c'est aussi une évidence que le dynamisme du genre n'est pas seulement une traduction directe des chiffres de vente, il est aussi, il est entretenu, il est créé, à la fois cause et conséquence de ce succès public que remporte le genre, par l'activité d'une multitude de passionnés absolument essentiels pour faire vivre la fantaisie en France, même si eux, parfois, doivent lutter pour en vivre. Il y a énormément d'autres maisons d'édition que Bragelonne qui représentent la fantaisie en France, et plus largement, il y a une représentativité dans le milieu de ces communautés de passionnés. Donc la fantaisie en France, c'est eux aussi, toutes les microstructures éditoriales, les associations qui animent littéralement la réception des auteurs et des œuvres, et qui font une large place, plus large que Bragelonne, aux acteurs français cette fois, donc posant les bases d'une production nationale rendue possible par le succès des traductions. On va essayer d'articuler ces deux éléments. Quand on se rend dans les festivals, hein, ou qu'on consulte les annonces sur les listes de diffusion, quand on regarde les sites internet, on ne peut que constater cette activité-là, hein, celle d'une nébuleuse d'amoureux des genres de l'imaginaire. Genre de l'imaginaire parce que les contours sont plutôt plus larges dans ces microstructures et dans ces communautés que la seule fantaisie au sens étroit. En partie déconnectée des résultats commerciaux, mais vraiment primordiale hein, dans la constitution de communautés qui sont un trait marquant de ce domaine et qu'on va essayer dont on va essayer de cerner un peu mieux le rôle durant ces deux journées. Bon, donc je termine hein, en renouvelant nos remerciements à tous ceux qui ont accepté notre invitation et soutenu notre démarche, et dont l'intérêt qu'ils ont montré, l'ouverture d'esprit qu'ils ont montré, nous laisse espérer des rencontres fructueuses. Alors donc, les derniers détails pratiques, hein, la dernière version du programme qui a énormément évolué au cours du temps. Nous, universitaires, on est habitués à avoir des choses bien bordées, très à l'avance, mais en invitant les professionnels qui ne sont pas sur les mêmes temporalités, en fait, que nous. On avait imprimé le programme il y a 2 mois, et évidemment, il a été obsolète pratiquement instantanément. Donc, la dernière version du programme, elle a été tout bête photocopiée et elle vous a normalement été distribuée, sinon vous pourrez vous la procurer. Donc les titres et les tables rondes, les thèmes des tables rondes sont inchangés, hein. En revanche la liste des intervenants n'a pas cessé de se modifier. On aura par exemple le plaisir d'avoir parmi nous, qui ne figurait pas sur le programme imprimé, Audrey Petit, qui est la nouvelle directrice de la collection Fantasy chez Calman Lévy et au Livre de Poche. Célia Chazelle et Claire Couturier qui viendront représenter Mnemos. Hein, c'était complètement essentiel de faire une place à cette maison moyenne et pérenne, hein, la plus ancienne sur le marché et qui est un véritable découvreur d'auteurs français. Qui a de nouveau aussi je crois que c'est tout. Hein, vous vous signalerez hein, s'il y a eu beaucoup de modifications hein, par ailleurs qu'on verra. Je vais vous présenter chacun lors de sa première intervention à l'aide de petites présentations qui m'ont été fournies et que j'ai lissées pour avoir pour chacun, soit j'en ai rajouté, soit j'en ai enlevé en fonction de, parce qu'on m'avait fourni soit deux lignes, soit deux pages de biographie. Donc voilà, et puis on introduira rapidement les problématiques des tables rondes hein, qui ont été transmises aux intervenants la semaine dernière sous forme développée. Donc, j'invite le public hein, à intervenir, à poser ses questions, à réagir aux différentes prises de parole de manière assez libre. Évidemment, ceux qui sont présents à la table sont prioritaires, hein, disons, mais on va essayer hein, qu'il y ait un maximum d'interactions pour que le débat soit ouvert et intéressant. Chacun peut avoir des choses hein, à apporter à la réflexion collective, même s'il n'est pas à la table à ce moment précis. Les débats vont être enregistrés. Merci à Jean-Christophe Aferia, surnommé le Seigneur des Anneaux, qui, de manière assez opportune, hein, enregistrement audio finalement seulement, parce que vous l'aurez sans doute noté, pour ceux auxquels ça aurait échappé, Paris 13, comme toutes les autres universités françaises, est encore... Hein, enfin. On est en train de sortir, sans en vraiment en sortir, de mois de lutte et de grève pour tenter de préserver la recherche universitaire et la formation des enseignants dans l'avenir. Donc, on a fait de notre mieux pour vous accueillir dans de bonnes conditions, mais il faut avoir à l'esprit à présent ce contexte un peu particulier dans lequel se déroulent ces rencontres universitaires. Je vous remercie. Donc, je vais te laisse introduire, présenter les gens ou...
Oui, Alors, vas-y, je te laisse le faire parce que tu as. Ouais.
Oh oui, j'ai des papiers, moi. Ouais. Alors, d'abord, donc Stéphane Marsan. Il faut le présenter tout de même. Donc, après avoir dirigé les éditions Mnemos à partir de 1995, Il est cofondateur en 2000 avec Alain Évan, qui sera là demain, des éditions Bragelonne, donc maison d'édition spécialisée en fantasy et aujourd'hui également en fantastique, horreur et SF, dont il est le directeur éditorial. Donc c'est lui qui lit les textes. Donc des éditions Bragelonne et de leur label Poche Milady. On le sait peut-être moins, mais il a aussi été auteur et scénariste du jeu de rôle Guild, dans l'univers duquel il a écrit deux trilogies et en a publié une troisième trilogie elfique sous pseudonyme. Voilà. Donc les intervenants d'aujourd'hui, hein, par ordre alphabétique, de maintenant, Charlotte Bousquet, ici. Donc Charlotte Bousquet a une formation de philosophie, hein, elle est une thèse de philo, elle est passionnée par l'histoire et la mythologie, et elle est une des personnes qui fait le lien entre les genres de l'imaginaire et la recherche universitaire, puisqu'elle est membre de Modernité médiévale et aussi du CERLI, le centre de recherche sur les littératures de l'imaginaire. C'est une auteure qui aime jouer avec les limites imposées par les genres, hein, donc ça va nous intéresser directement pour cette première table ronde. Et c'est aussi une femme de conviction, hein, un auteur engagé, puisque au sein des éditions CDS, elle a créé une collection qui s'appelle Pueblos, qui, à travers des anthologies thématiques, aide des organismes humanitaires et des causes écologiques. Alors, après une première trilogie, Le cœur d'Aramanta, récompensé par un prix Merlin, édité chez Nestimenen, ses dernières contributions, ses dernières publications sont Arachne, un roman de fantasy assez dark, hein, que je viens de lire, donc paru aux éditions Mnemos, et deux contributions à des anthologies récentes, l'une pour l'anthologie Dragon, aux éditions Kalman Levy, et l'autre pour l'anthologie Les héritiers d'Homère chez Argemios, une nouvelle qui s'appelle Le chêne et le tilleul. Elle a également récemment dirigé l'anthologie Elle, dont vous avez des exemplaires là-bas, qui est paru, de ces différentes anthologies, vous en avez, paru donc chez CDS Éditions, dont elle s'occupe avec Maison d'édition, dont elle s'occupe avec Fabien Fernandez, et dont les droits sont intégralement reversés à une association, la Maison Cœur de Femmes, qui s'occupe de réinsérer des femmes en grande difficulté. Voilà. Nicolas Cluzot est auteur et traducteur. Il a publié 15 livres, notamment Le lait de Nordhomme, Le dit de Sittel, chez Nestivenen, qui forment un espèce de qui sont connectés dans un multivers. Récemment, Le jour du lion, dans la collection Royaume disparu, Rogne perdu, chez Mango Jeunesse, dirigé par Xavier Moméjean. En plus, il y en a plein qui ont publié dans Royaume perdu, donc il faut que je m'en rappelle. Et également une bonne vingtaine de nouvelles et novellas dans le domaine de la fantasy, du fantastique, de l'histoire policière ou du thriller historique, qui sont parus en revue et ou en anthologie chez Nestivenen, chez Griffe d'encre, chez L'Oxymore. Il vit en Turquie depuis quelques années, et il y puise son inspiration actuelle. C'est dire s'il vient de loin pour être des nôtres aujourd'hui, et on l'en remercie tout particulièrement. Fabrice Collin, qui est là, il a 36 ans, il vit à Paris, lui, donc il vient de moins loin, mais on le remercie tout de même. Il est l'auteur... Non, vraiment. Il est l'auteur d'une trentaine de romans, auteur très, très productif, trentaine de romans pour les adultes et pour la jeunesse, plus quelques scénarios de BD et pièces radiophoniques. C'est un des auteurs marquants de l'émergence de la fantasy française, dont les ouvrages ont souvent été repris déjà en collection de poche chez J'ai lu. Et il en a illustré divers aspects de la trilogie épique, avec Winterheim à ses débuts chez Mnemos, jusqu'au collage intertextuel érudit auquel participe Or Not To Be sur Shakespeare chez La Talente, ou Dream Americana la même année, qui est plus proche de l'univers de Nabokov, en passant par la fantasy humoristique avec À vos souhaits, paru chez Bragelonne. Sa production destinée à la jeunesse est également importante, en particulier ces derniers temps, avec 6 ouvrages dans la collection Autre Monde de Mango Jeunesse, dont le récent La Fin du Monde. les deux volumes de La Malédiction d'Oldhaven chez Albin Michel Louise et le plus récent paru en avril, La Saga Mendelssohn, tome 1, Les Exilés, chez Seuil Jeunesse. Si vous avez des choses à rajouter, hein, n'hésitez pas. Nathalie Do, ici, est créatrice en 2007 des éditions Argemios, et c'est une auteure inspirée par les folklores et les mythologies, qui privilégie les contes et les nouvelles, les formats courts, hein, même si elle a pu développer l'une de ses nouvelles pour en tirer le roman Les débris du chaudron, donc aux éditions Argemios, nominé pour le prix Merlin 2009 et où elle retravaille le mythe celte de Kéridouen. Elle avait obtenu ce prix Merlin en 2006 pour sa nouvelle Le violon de la fée et le prix Imaginal 2008 catégorie nouvelle pour l'ensemble de son recueil Contes myalgiques 1, Les terres qui rêvent aux éditions Griffes d'encre. Elle a récemment participé aux anthologies de Brocéliande en Avalon, dirigé par Lucie Chenu aux éditions Terre de Brume, Le Crépuscule des Loups, dirigé par Charlotte Bousquet aux éditions Le Calepin Jaune, et elle, donc, que je viens de citer, dirigeant elle-même, avec Jean Milman aux éditions Argemios, l'anthologie Les Héritiers d'Homère, qui regroupe 18 auteurs actuels de fantasy, fantastique et SF, inspirés donc par les mythes grecs, hein, l'héritage d'Homère. Communiquant merveilleusement dans ce programme. Elle s'intéresse également à la jeunesse, avec un livre-disque illustré, voire avec le cœur, qui est accompagné donc d'un CD de musique. Et elle est aussi intéressée par la convergence texte-image, puisque elle est l'auteur, avec Crystal Camprubi en illustration, de l'ouvrage Légende, créature fantastique, paru aux éditions Ozu en 2008, et qui est également présenté là-bas, sur lequel on reviendra. Et Catherine Dufour est arrivée. Oui. Bonjour Catherine. Donc Catherine Dufour est née en 66 à Paris. Elle a été vendeuse de perles noires à Tahiti avant de se consacrer à la fabrication de bibliothèques numériques ici même à Paris 13 notamment. Ayant commencé à écrire à 7 ans, elle attend d'en avoir 30 pour décider qu'elle a appris le métier. Elle jette tout ce qu'elle a écrit jusque-là et publie son premier roman, Blanche-Neige et les lance-missiles, tome 1 d'une série fameuse de fantasy humoristique, Quand les dieux buvaient. Donc, trilogie en 4 volumes, comme elle le dit elle-même, inspirée des Monty Python et de Terry Pratchett. Depuis, Catherine a sorti chez Mnemos Le goût de l'immortalité, un roman de science-fiction qui a reçu de nombreux prix. Suivi d'un polar, un délire d'Orphée aux éditions Baleine, d'un recueil de nouvelles, L'accroissement mathématique du plaisir aux éditions du Bélial, et d'un roman punk fictif, Outrage et rébellion, aux éditions de Noël. Voilà.
On y va ? Bonjour. On va continuer à le tenter sans micro. Si jamais vous ne nous entendez pas, vous criez au fond et on essaiera de faire avec micro. Je suis très frappé par le foisonnement extraordinaire que vient d'évoquer Anne. C'est-à-dire que vous vous rendez compte de la variété, la multiplicité de ce que font les auteurs qui sont là autour de moi, dans des domaines très divers, dans des supports divers, dans des médias différents. C'est très frappant. Et par rapport à ça, la petite problématisation avec laquelle je vais ouvrir cette table ronde va sûrement paraître très contraignante et très restreinte. Mais ce qui me frappe, en fait, puisque cette table ronde est intitulée « Les auteurs au cœur du genre », c'est en fait ce rapport entre les auteurs et le genre, c'est-à-dire un écrivain, un artiste, et quelqu'un qui, a priori, ne devrait pas se présenter ou se définir autrement que par ce qu'il a décidé de faire, par la liberté de son style, par ce qu'il a décidé d'exprimer. Et pourtant, comme on parle ici de genre, on prend les choses autrement et on se demande comment ces auteurs, ces artistes, se définissent par rapport à un genre, ou sont définis par ce genre, parce que c'est peut-être pas nécessairement une décision de leur part, et c'est l'une des choses sur lesquelles j'aimerais les interroger. Et dans quelle mesure, dans un effet retour, ils définissent eux-mêmes le genre. Je pense que c'est l'enjeu de cette table ronde, c'est que les gens qui sont autour de moi vont sûrement nous dire ce que c'est la fantaisie pour eux, et donc je me garderai bien de tenter quelques définitions que ce soit avant qu'ils puissent s'exprimer là-dessus. Il y a un cas que j'ai trouvé tout à fait significatif, je crois que c'était au Festival de Saint-Malo, Étonnant Voyageur, l'année dernière, il y avait une table ronde, un peu comme celle-là, consacrée à la fantaisie, avec des auteurs de fantaisie, et à ces auteurs de fantaisie, le modérateur a posé des questions sur, alors, qu'est-ce que c'est la fantaisie ? C'est grave, c'est bien, pourquoi ça marche, faut-il en manger, etc. Et ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est que les auteurs qui étaient là, donc par exemple Pierre Pével, Eric Wietzel, tu en étais ?
Je crois pas.
En fait, se sont récriés et ont réagi assez mal à cette interrogation et ont dit en substance, moi je suis pas là pour parler de la fantaisie, je suis pas là pour la défendre, je ne suis pas là pour la définir, je suis là pour parler de mon roman. Façon de stigmatiser le fait que les autres auteurs invités dans toutes les autres tables rondes, on leur posait pas ces questions-là. On ne leur demandait pas de définir ce qu'ils faisaient, on ne leur demandait pas de défendre un genre dans lequel ils s'inscrivaient, on leur proposait de parler de leur œuvre, tout simplement. C'est dire que les auteurs de fantaisie sont des gens qui se trouvent là dans une situation forcément problématique, d'être à la fois, en quelque sorte, les porte-drapeaux d'un genre, ou d'un genre peut-être au pluriel, parce que si vous avez lu un peu les œuvres de tous les gens qui sont autour de moi, vous êtes rendu compte qu'ils font quand même des choses très différentes les uns des autres, et que chacun d'entre eux font aussi des choses différentes. Bon. Donc il être amené à être les porte-drapeaux d'un genre, et en même temps le refus d'être uniquement catégorisé sous cet angle, le refus d'être cantonné à ce domaine. Ce qui est, je crois, majeur dans l'initiative de cette table ronde, c'est de savoir finalement comment eux, ils témoignent de leur rapport au genre, de savoir quel est, dans leur inspiration, dans leur production d'écrivain, le rapport qu'ils entretiennent à ce genre et ce qu'ils ont à nous dire dessus. Donc finalement, des auteurs au cœur du genre, l'expression au cœur est intéressante et je pense qu'elle exprime cette dualité, c'est-à-dire être au cœur, c'est représenter chacun d'entre eux, à chaque page, dans chaque projet, la fantaisie, et en même temps y être circonscrit, être au cœur, être au milieu. Finalement, est-ce qu'ils incarnent le genre ? Est-ce que, au contraire, ils en sont prisonniers ? Est-ce qu'ils s'en sentent prisonniers ? On sait que la plupart des auteurs de genre, et pas seulement dans la fantaisie, loin de là, arrivent à un moment de leur carrière où ils essayent d'échapper au genre dans lequel ils ont œuvré. Et ils ont envie de dire, enfin, je suis pas seulement un auteur de fantasy, je suis aussi un auteur tout court, ou je suis un auteur à part entière. Donc, il y a aussi un aspect négatif, un aspect qui va contre la liberté de l'auteur lui-même. Donc, je vais poser comme ça cette problématique d'une façon assez globale, puisque finalement, comme on a une heure, autant qu'ensuite les participants à cette table ronde se sentent libres de s'exprimer, de témoigner sur tous ces aspects-là. Donc on a là l'opposition, peut-être, ou l'alliance entre la liberté d'une écriture et un genre, donc un genre qui a des codes, c'est-à-dire quelque chose dans lequel soit ils s'inscrivent personnellement, et là on parle d'une décision, ils ont découvert la fantaisie, ils ont décidé d'en écrire, ou alors ils l'ont rencontré un jour et se sont rendus compte qu'ils en faisaient sans le savoir, comme nombre de lecteurs lisent de la fantaisie sans savoir que ça s'appelle de la fantaisie, et est-ce bien nécessaire d'ailleurs qu'ils le sachent. Et également une autre inscription par rapport au genre, dans une histoire, dans un contexte, qui est celle, pour reprendre la dichotomie de Dan tout à l'heure, qui est celle du label, c'est-à-dire finalement on écrit dans un genre, mais on est publié dans un label. Au label au sens des bibliothécaires, des éditeurs, des libraires ont décidé que ce bouquin serait de la fantaisie, que cet album relèverait de la fantaisie, etc. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur la multiplicité des productions et des œuvres des auteurs qui m'entourent, il n'y a pas de rayon fantaisie chez les disquaires, par exemple. Donc finalement, or il y a aussi, enfin, on pourrait très bien appliquer ce label à la musique, or il n'y a pas de décision d'en faire un label, par contre il y a sûrement des accointances avec le genre. Donc ma première question aux auteurs qui sont autour de moi, ça serait la question du premier contact, c'est-à-dire finalement dans ce qui les a amenés un jour ou l'autre à finalement être ici avec vous, donc à parler de leur activité d'auteur de fantasy et de leur rapport au genre. Et il y a eu un premier contact, il y a eu une rencontre avec quelque chose qu'ils ont soit identifié immédiatement comme un genre, soit qu'ils ont découvert, qu'ils ont aimé, et bien plus tard ils se sont rendus compte, ou on leur a dit que c'en était. Mais finalement, ma première question, ça serait, commençons par Nathalie Do, par exemple, ça serait, en gros, comment tu es arrivée à écrire de la fantasy? Est-ce que tu as eu un rapport au genre? Est-ce que cette définition t'est apparue au moment où tu l'as fait? Ou est-ce que finalement tu as écrit quelque chose et ou tu as eu envie d'écrire quelque chose et un jour tu es tombé sous cette catégorisation? Est-ce que finalement tu as eu cette il me semble que c'est une expérience que les fans, les gens qui se reconnaissent amateurs d'un genre font, c'est-à-dire cette espèce d'adhésion spontanée de se dire ça y est, je suis chez moi, ça y est, c'est ça mon truc, ça y est, c'est ça que j'aime.
En fait, j'ai commencé à écrire assez jeune et j'ai commencé par écrire des contes et des histoires inspirées par les mythes que je lisais abondamment parce que j'adorais ça. Ensuite, j'ai essayé d'écrire du roman historique parce que je lisais aussi énormément de romans historiques. Et je me suis rendu compte en écrivant, je devais avoir 12-13 ans à ce moment-là, que dans mon récit historique se passaient toujours des événements merveilleux que je ne contrôlais pas, qui s'imposaient à moi. Et puis, vers 18 ans, j'ai eu un prof d'informatique qui m'a invité à lire Tolkien, et en lisant Tolkien, je me suis rendu compte qu'effectivement, il existait un genre littéraire dans lequel je m'inscrivais et qui me correspondait. Et donc j'ai arrêté d'essayer de censurer ces poussées de merveilleux spontanées, et puis j'ai continué sur cette lancée. Voilà.
Charlotte ?
C'est une bonne question. J'ai commencé par... Je vais faire sans micro et essayer de parler fort. Je crois que j'ai commencé par les livres dont vous êtes les héros quand j'étais toute petite. Et après, par le jeu de rôle. Et après, j'ai dû commencer effectivement à lire tout ce qui me tombait sous la main, qui était de l'ordre de la fantasy et du fantastique, de la SF. Et puis, c'est venu, on va dire que c'est venu effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, comme un cadre dans lequel on se sent chez soi, on se sent libre. Donc voilà, c'est venu assez naturellement finalement.
Catherine, est-ce qu'il y a aussi, moi ce que je note dans ces deux témoignages, pardon, je vous réveille, Madame Dufour. ce que je note dans ces deux témoignages, c'est déjà quelque chose qui se dessine, qui est quelque chose qui a rapport à l'enfance, c'est-à-dire le conte, la mythologie, le jeu. Est-ce que c'est pareil pour toi?
Non, pour moi, la fantasy, c'est... Clairement, et la sexualité. Soyons clairs, la première fantasy auquel j'étais au contact, c'est le conte de fées. Et c'est quoi un conte de fées? C'est tout simplement un garçon qui cherche à coucher. Et à la fin, le conte de fées se finit bien quand un garçon et une fille se rencontrent. Et bon, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants. On suppose qu'en fait, le but, c'est quand même de forniquer. Et pour moi, la fantasy a toujours été marquée au coin de la sexualité. Quand je veux lire autre chose que de la sexualité, j'ai de la science-fiction ou de la littérature blanche. Mais la fantasy est pour moi intégralement une littérature dont le but est d'arriver à des relations sexuelles consenties, valorisantes, avec une créature de rêve. Donc, mais j'aime beaucoup. Alors moi, j'ai lu... Moi, un des meilleurs livres de fantasy, c'est Chamblot, Catherine Moore. Là, ceux qui connaissent vont dire non, mais c'est de la science-fiction, il y a des vaisseaux spatiaux. Mais en gros, Chamblot, Catherine Moore, c'est un héros qui est beau et buriné, qui s'appelle Northwest Smith, et qui va de planète en planète, et tombe à chaque fois, sur une créature de rêve, qui est un vampire qui boit un peu n'importe quoi. Un coup, elle boit des sentiments, un coup, il boit de la beauté, un coup, il boit du sang. Mais de toute façon... Le but de cette créature est toujours de prendre Northwest Smith dans ses bras blancs ou ses tentacules blancs et de lui faire subir les derniers outrages, et ça lui plaît beaucoup. Il arrive à la fin à se dépêtrer, ce qui lui permet de survivre. Voilà. Le cycle de fantasy que moi j'ai préféré, c'est Tanit Lee, c'est... Aidez-moi. Ah non, justement, c'est pas le vin saphir.
Le dit de la terre plate.
Le dit de la terre plate, voilà. Qui est aussi une espèce de monstre monstrueuse fresque sexuelle où il y a un super prince démon nommé Ajrarn, dont on décrit les fornications homosexuelles, hétérosexuelles sans nombre. C'est une créature d'une beauté extraordinaire. Donc dès que vous le voyez, toute personne normalement constituée se couche sur le dos en faisant oui, oui. C'est que ça. Et il a ses ordres, une bande de démons qui, quand Ajrarn en donne l'ordre, vont tuer les gens qui ont désobéi à Ajrarn en leur imposant des relations sexuelles tellement ineffables qu'ils finissent par mourir de plaisir. Voilà. Et il y en a 5 volumes comme ça. Donc, pour moi, la fantasy est une littérature profondément charnelle. Quand elle le reconnaît, ça marche très bien. Quand elle ne le reconnaît pas, on tourne autour du pot pendant des pages, des chapitres et des chapitres. Et ça se voit notamment dans Tolkien, où Tolkien est quelqu'un d'extrêmement puritain. Et donc, ces elfes, quand ils se voient et qu'ils se rendent compte et qu'ils tombent amoureux, ils se prennent les mains, ils se regardent, et pendant ce temps-là, les arbres poussent et meurent. Parce que Tolkien venait d'une mentalité victorienne où ça se faisait pas. Alors il laisse la nature faire autour un petit peu, exactement comme Flaubert dans Madame Bovary, ferme les portes du fiacre dans lequel Madame Bovary est en train de subir les derniers outrages. Le fiacre se promène et c'est la route autour d'elle qui s'élève et finit par arriver dans une explosion de couleurs et de lumière. On laisse c'est le paysage qui jouit à sa place. C'est extrêmement bien fait. Voilà, donc moi j'ai une approche qui est beaucoup, beaucoup plus sexuelle de la fantaisie que peut-être les autres intervenants de la table ronde. Et je te rends le micro.
Oui, non, mais je te rends tout de suite pour préciser les choses. Est-ce que c'est cette recherche-là, finalement c'est le désir qui t'a amené à la fantaisie, ou c'est quand tu as rencontré la fantaisie, tu t'es dit que c'était une littérature sur la sexualité?
Non, alors.
Dans quel sens ça se passe?
Dans quel sens ça se passe? Non, alors là, tout ce que je viens de te dire, cette théorisation, moi, j'oublie souvent de réfléchir. Donc, c'est une intellectualisation que j'ai faite il y a peut-être une dizaine d'années. Or, j'en ai 40. Donc, j'ai passé quand même 20 ou 30 ans à lire de la fantasy sans du tout me rendre compte que c'était simplement une littérature un peu naniste. Mais après, moi-même, j'ai écrit de la fantasy et j'ai écrit de la fantasy pour détruire justement un certain nombre de ces mythes. Parce que bon, j'avais des problèmes psychologiques vis-à-vis des princesses charmantes qui attendent leur prince charmant et qui perdent leur vie finalement à attendre un abruti. Mais je me suis rendu compte que dans mes propres livres de fantasy, effectivement, il y a une sexualité assez débridée. J'ai essayé de traverser le Rubicon et de faire en sorte qu'il n'y ait plus systématiquement ces couples homosexuels bien pensants centrés sur la reproduction. Donc j'ai imaginé que la Belle au Bois Dormant couchait avec Blanche-Neige et que voilà, j'ai essayé de déconstruire les codes, mais ce n'est que récemment que j'ai réussi à comprendre que finalement, même je pense qu'au niveau enfantin, ce qu'on aime dans ce qu'on appelle la fantaisie, c'est que ça finisse bien. Et pour un enfant, le fait que ça finisse bien, c'est quand même toujours trouver de l'amour plus que de la connaissance. Ça, la connaissance, je pense que c'est un souhait qui vient quand on grandit. Mais je ne vais pas faire de la psychanalyse de fond de bistrot, donc je te rends le micro.
Fabrice Collin, vous aussi, vous cherchez l'amour?
Eh bien, ne manquez pas notre prochaine table ronde. Est-ce que écrire ou lire de la fantaisie permet de coucher plus facilement? Parce que finalement, c'est comme ça qui est intéressant. Alors après, moi, ça va paraître extrêmement... Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai raté ma vie, en fait.
J'ai raté ma vie.
Non, moi, je suis un peu comme Charlotte. Moi, je suis arrivé par les livres dont vous êtes le héros et par les jeux de rôle. Hein. Et puis, des jeux de rôle, là, la littérature, enfin, à tous les canons du genre, comme Tolkien, Fritz Leiber, Moorcock, etc., j'ai jamais trop théorisé la chose. Avec le recul aujourd'hui et la façon dont je conçois mes livres et la façon dont les idées me viennent, et si on prend une définition, on y reviendra peut-être tout à l'heure, très large de la fantaisie, pour moi la fantaisie c'est une littérature qui est liée à l'aventure, hein, au voyage, aux grands espaces, etc. Donc partant de là, aux quêtes, tout ça. Et je pense à ça parce qu'en ce moment, je suis en train de relire à mes enfants Max et les Maxi Monstres, hein, qui était un de mes tout premiers souvenirs de lecture, en fait. Et pour moi, là, on est déjà dans l'essence de la fantasy, c'est-à-dire c'est des gens qui voyagent, et puis c'est des gens aussi qui ont des problèmes. C'est quelque chose que m'a dit mon fils de 4 ans récemment, ça m'a pas mal marqué. Je lui ai dit, ça raconte quoi, Max et les Maximons, pour toi? Je sais pas si vous voyez le livre, il y a 10 pages en gros, hein. Max, il est puni, il y a une forêt qui pousse dans sa chambre, il s'en va, il rencontre des monstres et il revient. Et moi, je trouve que c'est un résumé assez intéressant de la fantasy, d'une histoire de fantasy classique. Et voilà. Et quand je lui demande, mon fils, de quoi ça parle, Max et Maxi Monstres, il me dit, c'est l'histoire d'un garçon qui a un problème, quoi. Et c'est marrant parce que ça recoupe la définition à l'opposé du spectre quand on demandait à David Lynch de résumer Inland Empire, son dernier film, qui est pour moi aussi une certaine forme très sophistiquée et tordue de fantasy. Il disait c'est l'histoire d'une fille qui a des problèmes. Donc on reste dans le problème. Voilà, c'est, alors il y a à la fois, pour moi, il y a un problème de base, alors qui est, bon, pas forcément sexuel, je sais pas, je suis pas allé jusque-là dans la réflexion, mais en tout cas, voilà, c'est des gens qui ont des problèmes et qui doivent les régler, et pour les régler, ils doivent partir, quoi. Partir hors d'eux et partir dans le monde, et donc affronter des démons intérieurs ou extérieurs, accomplir des quêtes, tout ça.
Nicolas, toi aussi, raconte-nous ta première expérience.
Ben, disons que moi, je suis pas du tout sexe comme Catherine, donc je suis venu à la fantasy, en fait, par un peu. Je me suis jamais destiné à être écrivain à la base, et je suis venu à la fantasy par Tolkien et Jack Vance, après avoir lu des dizaines de romans policiers d'Ex-Briat et de Agatha Christie. Je suis venu après à la fantasy et à la science-fiction. Et en fait, pendant des années, je n'ai jamais pensé à écrire. Et c'est quand j'ai fait du jeu de rôle, comme Charlotte, donc Fabrice, que j'ai commencé à vouloir mettre par écrit des parties ou des dialogues que je trouvais extraordinaires. Donc, et c'est là que j'ai commencé à me lancer. Et le jeu de rôle, en grande partie, repose sur la fantasy, c'est-à-dire un univers médiéval fantastique. Et donc, je me suis lancé en fait dans cette aventure. En écrivant un roman, et enfin voir si je pouvais écrire un roman. J'ai fini ce roman, et voilà, et je me suis dit, bon ben pourquoi pas, l'aventure commence. Et pour moi, la fantasy, comme je disais, c'est la rencontre du merveilleux avec tous les comptes que je pouvais régler dans ma vie avec mon passé, voilà. Si.
Tu lances une deuxième piste qui est majeure, qui est découvrir, aimer des œuvres qui relèvent d'un genre, c'est une chose. Décider d'en écrire, c'en est une autre. Comment ? Alors, tu viens d'évoquer cette transition. Est-ce que tu veux prolonger ça ? C'est-à-dire
En fait, à la base, c'est comme je me sentais bien, comme chez moi, donc comme tu disais tout à l'heure, dans le cadre de la fantaisie, je me suis mis à écrire des histoires. Mais en fait, c'est surtout le merveilleux, en fait, la rencontre des créatures extraordinaires, de la magie, qui pouvait expliquer plein de choses, plein de règles autres. Dans un monde imaginaire qui m'a séduit, en fait. La science, j'avais peur de la science, en fait, et j'avais peur de m'exprimer de manière scientifique dans un livre. Alors j'ai utilisé la magie pour en mettant un cadre très strict, en fait, malgré tout. J'ai utilisé la magie pour le merveilleux pour délimiter mes écrits.
Voilà. D'accord. Nathalie, ce passage de lire, aimer, se trouver bien dans des univers, etc., et écrire, et peut-être pour aller un petit peu plus loin sur cette thématique, comment tu travailles, comment tu te mets à un ouvrage, comment tu élabores finalement ta fantaisie.
Alors, pour répondre à cette question, je vais en même temps compléter ma réponse de tout à l'heure. C'est que je suis d'accord, il y a une dimension éros dans la fantaisie, mais je crois qu'il y a aussi une grande dimension thanatos. Et pour moi, écrire de la fantaisie, c'est... Et lire certaines œuvres de fantasy, c'est aussi trouver des réponses à l'angoisse face à la mort et à ce qui se passe après la mort. Et ça, je le trouve pas forcément dans toute la littérature. En général, les personnages sont morts, stop, on sait pas ce qui se passe derrière. Et la fantaisie en héritière de la mythologie, et même des contes, parce que les contes se finissent pas toujours bien, et que les versions premières des contes, en général, sont même assez cruelles, ça me permet quelque part de se projeter, et d'essayer de trouver des réponses sur des autres mondes possibles. Et dans mon écriture de fantasy, c'est peut-être moins sensible dans les nouvelles, mais en tout cas sur les romans, ça se sent davantage, et puis aussi sur des œuvres sur lesquelles je travaille actuellement. Il y a une dimension mystique, et il y a une dimension de... Il y a tout un cycle sur lequel je travaille, et où, qui repose sur un postulat comme quoi les gens se réincarnent et n'ont pas le même rapport à la mort que nous pouvons l'avoir dans nos sociétés où on ne sait pas ce qui se passe après. Donc c'était quoi la question déjà ?
Comment tu écris, comment tu entreprends une œuvre ?
J'ai parfois l'impression d'être un récepteur et de recevoir des choses et puis ensuite il faut que je les retranscrive, que je les transmette. Ouais.
Charlotte, sur ce même, même sujet.
Parce qu'en fait, ça commence à se complexifier.
Oui,
ça commence à devenir un cycle, en fait.
C'est le but de la manœuvre. Exactement, oui. Donc, deuxième tome.
Alors, le deuxième tome, c'était...
Produire. Comment tu te mets à écrire ? Comment tu entreprends un ouvrage ? Est-ce que tu penses au genre quand tu te mets à écrire ?
En fait, c'est on va dire, c'est le thème qui détermine le genre. Parce que j'écris aussi du fantastique et puis du polar historique depuis pas très longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... il y a un thème qui va s'imposer, qui est généralement effectivement lié à Eros, Thanatos, la folie, qui peut être lié aussi tout simplement, on va dire, à des problématiques philosophiques ou tout simplement humaines qui vont, moi, m'interroger à un moment donné. Et puis... Et puis, peu à peu, quelque chose va se construire, va émerger, ce quelque chose va donner lieu, effectivement, à de la fantaisie, ou à du fantastique, ou à totalement autre chose, ou un article de philosophie. Bon, c'est vraiment des choses très, finalement, à la fois très différentes, en même temps, qui se répondent. Et puis, il y a une autre... on va dire quelque chose d'autre qui fait son apparition, en tout cas dans ma manière de travailler depuis quelques temps, qui est, en fait, la littérature générale. Parce que je me rends compte, pour moi, il y a de moins en moins de frontières. Plus j'avance, moi, j'ai l'impression qu'il y a des frontières entre les genres. Et quand je lis du Wilkie Collins ou du Thackeray, pour moi, je fais plus du tout de différence entre un livre comme ça on va dire, Tanisly, pour faire plaisir à Catherine.
Merci.
Voilà. Donc, ça se construit de manière assez, à la fois, je dirais, on va dire, très intellectuelle et complètement instinctive. Je ne sais pas si c'était la réponse à la question, mais
c'est toi qui l'as la réponse, c'est pas moi. Moi, j'ai que la question.
La vérité est ailleurs.
Ah, très bien. L'aspect du jeu a été évoqué plusieurs fois. Le jeu tel que pratiqué, le livre dont vous êtes le héros, jeu de rôle, qui permet la rencontre avec des univers ou une proposition imaginaire qui relève de la fantaisie. Mais le jeu, c'est aussi une activité. Et en fait, j'aurais une question qui s'adresserait à la fois à Catherine et à Fabrice, c'est-à-dire, le jeu, c'est aussi un jeu littéraire. Et vous pratiquez, dans certains de vos ouvrages, un jeu littéraire. C'est-à-dire vous avez une attitude par rapport au genre au pluriel qui est volontiers iconoclaste et qui est aussi très variée. C'est-à-dire que vous faites des bouquins très différents les uns des autres, Fabrice étant le champion de « Je ne refais jamais ce que j'ai fait avant ». L'un après l'autre, Catherine d'abord ou Fabrice, comme vous voulez. Ok, voilà.
Tout commence généralement par une lettre de mon banquier. moi je suis quelqu'un qui. Voilà, je m'ennuie assez rapidement. La volonté de faire des livres nouveaux à chaque fois, enfin en tout cas dans les thématiques, c'est pas histoire de faire le malin, c'est que ça m'embêterait de creuser éternellement le même sillon et par ailleurs je pense avoir une curiosité, un appétit d'écrire qui font que j'ai envie d'essayer plein de trucs et surtout généralement pas le truc que je suis en train d'écrire quoi. C'est-à-dire que chaque livre se construit sur la frustration du précédent. C'est un petit peu, mais pourquoi je fais ça? En fait, ce que je veux faire, c'est tel autre truc. Voilà. Donc, La thématique, par exemple, passage, fantasy, littérature générale, ou tout ça, c'est quelque chose qui a été au cœur de mon, de ma production, cette espèce de mouvement de balancier, se définir par rapport à un genre, commencer à écrire dans ce genre-là, se dire que finalement, littérairement, parce que ça, c'est aussi une question qu'on peut aborder par rapport à la fantasy, on a, y a une sorte de complexe de, d'infériorité par rapport à ce genre, en disant, bon, c'est un peu un, c'est un genre de divertissement, donc on peut faire des trucs mieux que ça. Puis alors après, on essaye, on se dit, mais finalement, ma patrie, c'est l'imaginaire, etc. Donc tout ce jeu de balancier est à la fois excitant et un peu fatigant. Je pense avoir résolu une partie des... Enfin, j'ai pas résolu les contradictions, mais je me sens plus à l'aise avec toutes ces contradictions, justement, en littérature jeunesse, où la question du genre, pour l'instant, se pose quand même assez moins. Même si... il y a des collections qui sont dédiées spécifiquement à un genre. Chez les éditeurs vers qui je vais maintenant, j'essaie de placer des livres dans ce qu'on appelle des collections grand format ou hors série ou hors genre, et donc en gros ça peut être n'importe quoi. Souvent les éditeurs eux-mêmes n'ont pas de grande connaissance du genre et réellement ils s'en foutent un peu. Voilà, là je viens de coup sur coup de présenter plusieurs choses chez Albin Michel, et c'est de l'imaginaire, c'est certainement de la fantasy si on prend une définition assez large, c'est pas de l'héroïque fantasy, mais il y a un côté magique, il y a un côté onirique, donc on est bien dans ce genre là mais l'éditeur s'en moque, ne labellisera pas le livre comme ça, et moi je suis content de me dire que je fais de l'imaginaire au sens large, sans me poser plus de questions, quoi.
Est-ce qu'on peut être sincère quand on joue?
C'est vraiment une question dégueulasse. oui, alors moi je différencie là encore la production pour adultes et la production jeunesse. Dans la production pour adultes, il y a ce côté de jeu avec le lecteur où l'enjeu est plus seulement l'histoire qu'on va raconter, mais le rapport au lecteur. Le vertige qu'on peut susciter, la façon, qu'est-ce que ça peut être de mentir à un lecteur ? Est-ce qu'on peut mentir ? Bon, je suis dans ces problématiques-là, qui sont pas forcément, évidemment, les plus vendeuses, mais qui sont certainement les plus excitantes. La question de la tricherie, du mensonge peut se poser. Elle est au cœur de ma problématique, même un peu en jeunesse. Là, je viens d'écrire un roman qui n'est pas du tout de la fantasy, qui est un roman historique, mais où je tombe, j'allais dire, volontairement dans mes travers habituels, c'est-à-dire que je raconte l'histoire d'une famille juive à travers le XXe siècle, en présentant tout le projet comme si c'était une histoire vraie, y compris dans la préface où je me mets moi-même en scène. Et c'est allé vraiment au-delà de mes espérances, parce que je me suis rendu compte qu'à peu près, au moins un lecteur sur deux pensait que c'était vrai. Ce qui peut être gênant en interview notamment, ça m'est arrivé hier de faire une interview en direct à la radio et je suis complètement pris de court parce que ça m'était pas venu à l'esprit que les gens allaient croire le truc. Pour moi, on est toujours dans le jeu et voilà, c'est un peu comme sortir avec une fille en disant mais tu sais que ça va pas durer, etc. Et la fille est pas du tout au courant, elle a pas du tout vu le truc comme ça. C'est pas autobiographique, hein, mais. Voilà. Le problème, c'est peut se poser en littérature jeunesse. J'ai l'impression plus d'une sincérité, au sens où certainement tu l'entends. C'est-à-dire, je raconte des histoires. C'est des choses. C'est juste des histoires, quoi. C'est linéaire. C'est plus ou moins premier degré. Et il y a moins ce jeu de chat du chat et la souris avec le lecteur.
Catherine, je vais poser la question autrement sur cet aspect du jeu et du jeu littéraire. Est-ce que quand tu écris quelque chose dont tu penses que c'est de la fantaisie ou dont tu penses qu'un éditeur mal intentionné va considérer que c'est de la fantaisie et va le publier comme ça, finalement quand tu écris, tu décides de faire de la fantaisie ou tu essayes d'y échapper, notamment par un jeu littéraire ou par la parodie ? Cessez de jouer avec cette cuillère, du coup. puisque ce que tu as évoqué sur Blanche-Neige et les lance-missiles, c'est quelque chose qui relève de la parodie, ou en tout cas d'un jeu humoristique avec le genre. C'était pour faire de la fantaisie ou c'était pour y échapper ?
Non, c'était pour faire du Terry Pratchett. Parce que moi, je ne fonctionne que par plagiat. Donc quand je tombe sur un auteur que je trouve génial, je me dis « Waouh, c'est ça que je veux faire !» et je le fais. Donc j'ai découvert Pratchett qui a écrit les chroniques, c'est le Disque Monde, les chroniques, il y en a 25 ou 30 tomes. Je les ai tous relus 15 fois, j'ai trouvé cet auteur génial. Et puis au bout d'un moment, j'étais tellement remplie de Pratchett qu'il fallait bien que je le recrache. Et j'en ai fait une trilogie en 4 volumes de fantasy qui s'appelle Quand les dieux buvaient et qui effectivement est un peu à la manière d'eux. Alors je vais écrire avant, je vais dire est-ce que vous me donnez l'autorisation de vous plagier. Il ne m'a pas répondu. Comme qui ne dit mot consent, j'ai estimé j'ai le droit. Le livre suivant, alors c'est un livre de SF, c'est Le goût d'immortalité, c'est parce que j'avais lu tout Ours Noir, donc j'étais remplie d'Ours Noir, donc pouf, je l'ai recraché. Et là, j'ai lu un livre punk qui s'appelle Please Kill Me, si vous pouvez le lire, c'est chez Alia, qui est absolument génial, c'est l'histoire du punk, d'Iggy Pop, de Lou Reed. Et là, c'est pareil, j'en étais remplie, et là, j'ai recraché Outrage et Rébellion, qui est un livre de science-fiction punk. Donc moi, je fonctionne uniquement comme ça, par imprégnation d'auteur pour lequel j'ai des flashs extrêmement importants au niveau stylistique, mais souvent aussi au niveau philosophique et moral. Et une fois que j'en ai trop absorbé, il faut que je m'en débarrasse, que j'en fasse quelque chose. Donc moi, c'est plutôt une méthode d'évacuation. Donc je ne me dis pas, je vais faire de la fantaisie, je me dis, je vais faire du Pratchett. Il y a Douglas Adams aussi, le guide du retard galactique, une fois que vous avez lu les 5 qui existent, je crois qu'il y en a fait 5 en tout. La dernière, c'est Salut et merci pour le poisson, je crois. Le problème, c'est que comme il est mort, il n'en écrira plus jamais. Donc si vous voulez avoir une petite chance de relire quelque chose qui soit de la littérature absurde anglo-saxonne, vous êtes obligé d'écrire vous-même, il y a ça aussi.
Erwin Colfer, ouais.
Bon, faudra okay,
mais lui, il avait le droit, lui, tu vois. Ouais. Nicolas Cluzeau, puisque il y a la question des références et du plagiat entre guillemets qu'avoue Catherine Dufour, la représentation éditoriale de la fantaisie en France depuis en gros la fin des années 70, c'est énormément de ce qu'on peut catégoriser comme la high fantasy, c'est-à-dire Tolkien et tous ses héritiers, donc le schéma d'une quête initiatique avec plusieurs personnages qui collaborent entre eux et qui vont sauver le monde en mettant à profit leurs compétences respectives, etc.
Oui.
Donc ça, c'est une représentation majeure. C'est, donc ça veut dire que c'est statistiquement ce qu'on a tous lu le plus, ou ce qu'on a eu le plus l'occasion de lire quand on a lu de la fantasy. Est-ce que le fait pour toi d'écrire de la fantasy, c'était s'inscrire dans ce mouvement, ou c'était forcément, puisque tu l'avais lu, tu t'avais inspiré, etc., ou c'était, pareil dans les jeux de rôle, puisque les jeux de rôle, c'est essentiellement de la high fantasy, ou est-ce que c'était essayer de faire différemment, essayer de faire original?
Moi, quand j'ai commencé à écrire de la fantasy, j'ai suivi ces codes, je dois l'avouer, parce que c'était plus facile à suivre au début. Et comme Catherine, quand on a lu énormément un auteur comme Tolkien ou comme Jack Vance, on recrache un peu au début. On plagie pas, mais disons qu'on s'inspire énormément. Mais après, j'ai voulu un peu casser dans le sens où j'ai pas voulu reproduire. Absolument ce que Tolkien avait écrit, donc je me suis mis à détruire à m'inspirer plus de l'histoire humaine, enfin du en tout cas de notre monde, et de lire énormément de documentation historique et de tout aussi recracher un peu dans des pour reproduire ce que dit Catherine. J'ai reproduit tout ce qui était historique tout ce qui était philosophique, religion et tous les thèmes tournant autour du fanatisme, par exemple dans ma trilogie Le Dit Citel. J'ai voulu casser un peu ce que je faisais avant, en fait. J'ai essayé de ne pas reproduire tout le temps le même schéma. Ce qui a amené des romans très noirs, des romans où la destruction ou l'apocalypse, enfin, il y avait beaucoup de références apocalyptiques, en fait. Voilà. Et puis, dernièrement, je me suis plus penché vers l'histoire, mais dans le sens où j'ai arrêté un peu de faire de la fantaisie et je me lance vraiment dans l'historique. C'est-à-dire que grâce à la fantaisie, je me suis un peu... j'ai inclus l'histoire de notre monde dans la fantaisie et... maintenant je me libère un peu de la fantaisie, mais sans, toujours en aimant le genre, bien sûr. Mais je m'en libère en écrivant beaucoup plus, enfin des choses beaucoup plus réalistes, sans fantastique en ce moment. Voilà. D'accord. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais
bien sûr, Vincent.
À vous entendre, en fait, c'est important, c'est-à-dire qu'on a un itinéraire qui est le moment de la lecture et de la reconnaissance. Ah, je suis chez moi. Ah, c'est ça vraiment ce que j'aime. Puis le moment et qui vous appartient en propre, ce que nous n'avons pas fait nous dans la salle, vraiment, c'est le moment où vous écrivez en plus ou moins en pastichant. Voilà, plus ou moins en pastichant. Et là, on voit très bien que là, c'est commun aussi à la littérature dite générale, puisque Proust est passé par là aussi. Et après, un troisième moment où vous vous affranchissez des codes, vous ne posez plus la question, je fais ce que je veux, ou alors vous attaquez frontalement le code. J'essaie simplement d'essayer de voir ce qu'il y a de commun dans les témoignages que vous êtes en train d'apporter, mais qui sont un petit peu vertigineux, parce que de quelle fantaisie on parle? De celle que vous avez à l'esprit au moment où vous écrivez, évidemment, on n'écrit pas la même fantaisie à 35 ans et à 12. Vous avez aussi en tête, vous avez l'image de la fantaisie que votre éditeur a en tête, et vous vous projetez aussi en pensant à l'image que votre propre lectorat a de la fantaisie. C'est un petit peu ce que je parle en temps dans ce que vous dites.
C'est parfaitement articulé. Qui veut répondre à ça?
Moi, j'ai envie d'ajouter que tu... Enfin, je suis assez d'accord avec ton analyse, hein, c'est assez lumineux. Bon, à un moment, on veut s'affranchir de la fantaisie, mais on en garde tous... quelque chose, quoi. On part avec ce qui est peut-être la substantifique moelle du genre et qui fait qu'aucun de nous ou qu'il aille par la suite littérairement arrivera à écrire je sais pas, du Christine Angot par exemple. C'est-à-dire que démentez-moi, hein, je sais pas, mais en gros on a été touché par quelque chose, quoi. Et moi, c'est dans discussion que j'ai eu avec Stéphane de temps en temps, où voilà, il y a une nostalgie de toute façon du genre. Alors peut-être je réécrirai jamais de la high fantasy. C'est un genre où vraiment il faut avoir, je trouve, une foi extraordinaire et une énergie, vraiment quelque chose à apporter à ça. On a l'impression que passer 15 ans ou 20 ans, que ce soit en tant que lecteur ou en tant qu'écrivain, on va rien avoir de nouveau à dire par rapport à ça. Donc on va aller vers d'autres genres, mais tout en imprégnant ces genres-là ou ces nouvelles thématiques de quelque chose d'indéfinissable, de cette petite étincelle qu'on pourrait appeler fantasy.
Charlotte, Nathalie, une réaction à ce...
Je ne sais pas si...
plus fort.
Le micro. Zoup, zoup, ça marche ?
Normalement, oui. Un chouïa plus.
Alors, oui, non, je ne sais pas du tout s'il y a... Enfin, le côté affranchissement, j'ai l'impression que c'est comme si la fantasy, c'était quelque chose de mal. Mais moi, j'ai pas. Alors après, c'est juste un ressenti personnel. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de me détacher de quoi que ce soit. Mais c'est plutôt une sorte de continuité quelque part, histoire de faire un peu dans la provo. Pour moi, la Bible, c'est de la fantaisie aussi quelque part. C'est des histoires. Il y a des miracles, il y a du merveilleux. Il y a voilà, il y a ce genre de choses. Donc quelque part, c'est plutôt une sorte de d'énorme magma qui se crée, qui bouge, qui fait que finalement, peut-être plus le temps passe. Plus nous on a peut-être de liberté à faire effectivement autre chose que de la high fantasy ou à se à aller dans différentes directions, peut-être plutôt. Voilà.
Oui, je voulais dire que moi je suis passée aussi par le jeu de rôle en tant que joueuse puis en tant que maître de donjons et dragons. Et en tout cas, ce qu'on apprend dans ce type de fantasy, c'est que si on balance pas un dragon au joueur toutes les 10 minutes, il s'ennuie. Voilà. Donc là, on peut dire effectivement qu'il n'y a pas d'affranchissement, au sens où ça donne des réactions stylistiques, et que quand on passe du donjon à l'écriture, on garde en tête que si on veut garder le lecteur, il faut balancer un donjon dans tous les chapitres. Mais ça, je crois que même Musso est au courant que s'il ne se passe pas quelque chose dans un livre à peu près toutes les trois pages... Et ben le lecteur, il s'en va et puis il ne revient pas. Donc c'est... De toute façon, il y a certains procédés stylistiques dont on ne s'affranchit pas, parce que c'est quand même au cœur de toute littérature, sauf effectivement Christine Angot. Mais bon, c'est un jeu.
tu voulais prolonger ?
Non.
Moi, je voulais exemplifier alors, d'une façon un peu particulière ce rapport inspiration et une production qui en, s'y oppose ou qui en diffère totalement. Nathalie, si mes souvenirs sont bons, parce que c'est, on parle de, d'événements qui sont passés il y a une quinzaine d'années maintenant.
Oui, que les moins de 20 ans ne peuvent
voilà,
pas connaître.
Voilà, l'une des premières fois où on s'est rencontrés, il me semble me souvenir que tu m'avais dit l'importance et le plaisir que tu avais eu à lire la série Dragonlance.
Oui, j'avais eu du plaisir voilà, parce est... que j'avais craqué sur Aisling Majere, comme à peu près tous les gens qui ont lu cette série.
Et... Donc Dragonlance, c'est l'archétype de la high fantasy basée sur un univers de jeu de rôle. Et ce qui est hyper intéressant, et j'ai gardé cette confidence en tête, c'est que quand on lit l'œuvre de Nathalie Do, on ne voit pas du tout le rapport. C'est-à-dire que je pense que même des gens qui célébreraient l'œuvre de Nathalie, on leur dit « oui, mais elle a adoré Dragonlance », ils diraient « non, tu déconnes ». Bon. Donc je trouve que c'est un exemple hyper intéressant, et quand tu cites, et tout à l'heure tu parlais des mythologies finalement, comment tu lis les deux en quelque sorte, enfin pour être caricatural, qu'est-ce qui reste de Dragonlance, du plaisir que tu as eu à lire Dragonlance dans ce que tu écris aujourd'hui?
Il reste un personnage torturé qui souffre et qui a des ambitions mystiques puisqu'il essaye de devenir Dieu et qui se rend compte d'ailleurs que sa quête de divinité est vouée à l'échec. Qui va finalement accéder à une certaine rédemption.
Alors, est-ce que ça veut dire que finalement en fantasy, quelle que soit la forme assez schématique qu'elle puisse prendre dans sa structure, dans ses références, etc., tu et les écrivains et d'autres écrivains, tu y saisis ce que tu veux et que finalement la forme qui peut sembler caricaturale ou qui peut être accusée d'être caricaturale est moins importante qu'un contenu que tu en tirerais. Et est-ce qu'il y a là une analogie avec la mythologie, par exemple?
En fait, je crois qu'il y a, pour moi, il y a la fantaisie que j'aime lire pour me détendre, la fantaisie que j'aime lire en me disant « waouh, ça c'est superbe, j'aimerais bien être capable de l'écrire », il y a la fantaisie que j'ai envie d'écrire et il y a la fantaisie que j'ai envie de publier aussi. Donc, ce n'est pas forcément toujours les mêmes fantaisies. Autant je peux prendre du plaisir sur le fond de Dragonlance, autant sur la forme, je souffre. Il faut bien le dire, quand même. Donc, surtout les traductions de l'époque qui étaient pleines de fautes, de coquilles, de lourdeurs. Enfin. Donc voilà. Et puis, bon, il faut dire qu'à l'époque où j'ai lu Dragonlance et où j'avais tellement craqué dessus, c'était... Voilà, j'avais une vingtaine d'années. Et j'en ai 40 passées. Donc forcément aussi, on mûrit dans ces lectures et je pense qu'il y a un certain type d'œuvres de fantasy qui sont peut-être plus adaptées à un jeune public. Et par exemple, il y a Moorcock. J'avais adoré Moorcock quand j'étais plus jeune et maintenant, j'arrive plus à le relire. Parce que, je sais pas, est-ce que c'est lui qui a vieilli? Est-ce que c'est moi qui ai changé et qui n'ai plus les mêmes attentes? On évolue aussi en tant que lecteur, comme on évolue en tant qu'auteur.
D'accord. J'ai une dernière question, parce que tu viens de faire une allusion que je trouve, une distinction que j'aimerais bien qu'ils évoquent avant qu'on vous laisse la parole. Tu viens de distinguer la fantaisie que tu écris ou que tu as envie d'écrire et la fantaisie que tu as envie de publier.
Oui.
C'est quoi la différence?
La fantaisie... Je suis capable de publier des textes que je n'aurais pas écrits dans la mesure où ils savent me faire rêver et où j'en reconnais la qualité littéraire. Mais ils vont peut-être aborder des thèmes que moi, je n'aurais pas eu envie d'explorer. C'est à ce niveau-là que je fais la différence. Sinon, en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur, j'ai même une démarche de recherche de la qualité littéraire et d'un fond et d'une forme qui soit à la hauteur dans les deux niveaux. Enfin, aux deux niveaux. Et à l'oral, je suis une catastrophe.
Donc, public, non, public, exprime-toi, il est temps.
Parle maintenant ou tais-toi jamais.
Maintenant alors. Donc, pour rebondir sur cette dernière question, est-ce que vous publieriez...
Louis Carnios de Elbakin.
Merci. Est-ce que vous publierez Dragonlance à l'heure actuelle?
Non, moi, je ne publierai pas Dragonlance. D'abord parce que, financièrement parlant, je n'ai pas les épaules assez solides. Et ensuite, parce que, au niveau de la qualité littéraire, au niveau du style, ce n'est pas ce que je recherche.
Lucie?
Merci. Moi, j'ai deux questions, une pour Catherine et une pour Nathalie. Catherine, je voudrais savoir, quand tu écris des nouvelles, de quoi tu te remplis et qu'est-ce que tu recraches?
Je procède de la même façon que, pardon, que pour un roman, bah, évidemment, ça dépend si c'est de la nouvelle spontanée ou de la nouvelle sur commande. Par exemple, oui, si on m'a commandé une nouvelle pour Edgar Allan Poe, donc j'ai relu tout Edgar Allan Poe. J'ai eu bien du mérite parce qu'il y a quand même une partie de son œuvre qui a vieilli. Et puis après, j'ai pas eu de mal du tout à écrire une nouvelle dont on a dit qu'elle est extrêmement réussie, en sens où elle est quand même à peu près aussi ennuyeuse qu'une nouvelle Edgar Allan Poe. Voilà. Sinon, effectivement, il y a d'autres nouvelles plus spontanées. Et à ce moment-là, je me dis, oula, ça doit être psychanalytique. Et là, je creuse un peu. Effectivement, je trouve toutes sortes de problèmes oedipiens dans un style dit spontané. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir, moi, un style dit spontané. Mais on ne peut pas dire que ça me dérange en quoi que ce soit. Je me sens m'inscrivant dans un ensemble littéraire. Je n'ai pas l'impression d'être un ovni débarquant sur ce sol avec un style extrêmement original et un point de vue absolu inouï. Enfin non, ça, un point de vue ne peut pas être inouï, on va dire invu.
Et oui, j'ai une autre question pour Nathalie. Quand tu différencies la fantaisie que tu as envie d'écrire et la fantaisie que tu as envie de publier, je voudrais savoir dans quelle catégorie tu mets la fantaisie que tu anthologises.
Ben, dans la fantaisie que j'aime publier. Oui, bah, c'est une invitation aux auteurs à me faire plaisir, quelque part.
Oui, Francis Berthelot, bon, je voudrais apporter, avant qu'elle se tire honteusement de la salle, non pas de l'eau au moulin de Catherine Dufour, mais du vin à son pressoir, en disant que... au début des années 80, bon, après avoir écrit un space opéra, je me suis dit, tiens, je vais changer, comme le disait Fabrice, et je vais faire autre chose. Tiens, je vais faire une héroïque fantaisie, mais seulement j'en ai jamais lu, donc qu'est-ce que c'est? Alors j'ai lu le Seigneur des Anneaux, et arrivé à la fin du deuxième volume, alors qu'il y en a trois, j'ai dit, bon, j'arrête, parce que c'est totalement asexué, cette littérature, donc c'est pas du tout ça que je veux faire. Donc moi, je vais faire la même chose, mais de façon sexuée, parce que là, vraiment, c'est juste pas possible, quoi.
Oui. Vous dites que, j'ai noté la phrase, il faut mettre des dragons dans toute littérature. Je me demandais, parce que bon, je connais pas très bien les auteurs que vous avez cités, je me demandais où se situent les dragons chez un auteur comme Alessandro Baricco, par exemple. J'ai un peu de mal à...
Alessandro Baricco, l'auteur de Soie,
Océan Mer, City... Ah oui, on sort complètement de l'heroic fantasy. C'est justement pour ça que...
Oui, je voulais, si je peux, répondre très rapidement à Francis pour lui dire que je suis bien d'accord avec toi, qu'il y a effectivement un vieillissement, mais là ça concerne toutes les littératures, dû à l'évolution des mentalités, notamment au niveau de ces détails que sont la morale domestique et sexuelle, qui font qu'effectivement certains ouvrages, et notamment ceux de Tolkien, sont d'une telle pudibonderie qu'on a un peu l'impression vous arrivez dans un hôpital psychiatrique quand on lit ça, tellement toutes les dimensions sexuelles sont gommées, alors du coup elles ressortent sous les dehors les plus ridicules, sous forme d'épées turgescentes, etc. Et à un moment ça devient gênant. Ça se rencontre aussi beaucoup dans la science-fiction américaine d'avant les années 60, où à un moment, oui, c'est pareil. Enfin, les fusées sont tellement turgescentes elles aussi que ça, bon. Voilà, c'était pour te dire qu'il y a, il peut y avoir un vieillissement dû à un changement d'ailleurs assez radical de mentalité domestique.
J'ajouterais que chez Tolkien, il n'y a même pas de désir. C'est pas seulement de sexualité, il n'y a même pas de désir.
Ah non, c'est le paysage qui est obligé de réagir tellement. Non, mais Tolkien en plus, enfin oui, il y a les sudrois.
Il y a des fans de Tolkien parmi nous, hein.
Oui, c'est bien
pareil. Nous en sommes. Et alors là, le coup de l'accent.
Et j'ai pas dit que j'aimais pas.
Ça, c'est un vrai gros débat que nous allons pas lancer.
Ex-fan de Tolkien, petite baby doll ex-fan de Tolkien, il y a encore des questions dans la salle. Alors moi je propose la pause syndicale dans 10 minutes. Donc on continue à poser des questions, disons 2-3 questions, ça ira?
Alors justement j'aimerais rebondir sur cette question-là, puisque c'était l'une des questions que je souhaitais poser à Catherine Dufour. Alors tout d'abord, et d'un point de vue un petit peu provocant, Puisque chez vous, la sexualité est au cœur de la fantasy, dans quoi est-ce que ça va finalement se différencier du roman naturaliste? On peut prendre, par exemple, Thérèse Raquin, tout simplement. Et d'autre part, également, puisque vous estimez que Tolkien a une œuvre extrêmement asexuée, et vous n'êtes apparemment pas la seule, j'aimerais tout d'abord vous poser la question de ce que vous pensez du dernier roman qui est paru de Tolkien, Les enfants de Hurin, qui explore justement la question de l'inceste, même si relativement incidemment à l'intrigue. Et d'autre part, je tiens quand même à apporter un bémol au sujet de l'absence de désir chez Tolkien, puisque Tolkien, effectivement, ne décrit que extrêmement peu la psychologie de ses personnages et les pensées intérieures qu'ils puissent avoir, ce qui est peut-être en rapport avec la manière dont est censé être retranscrit le Seigneur des Anneaux. Mais est-ce que ce désir est réellement absent quand on peut voir des personnages comme Eowyn et son rapport avec Aragorn?
Donc c'est à moi de répondre, voilà. Alors d'abord la sexualité, le roman naturaliste, on va dire que la différence entre la fantasy et le roman naturaliste, c'est que ça, en fantasy ça finit bien quoi. Thérèse Raquin, alors, on montre quand même la littérature du 19e siècle qui était hyper gore, je veux dire, tout se passe mal. Alors si pour peu qu'il y ait une once de sexualité, alors là c'est une catastrophe épouvantable. Pour ceux qui, enfin oui, enfin je pense qu'à peu près tout le monde a lu Thérèse Raquin, mais donc c'est l'histoire d'une femme, elle a un mari tout à foin, et elle a un bel amant, donc il tue le mari pour pouvoir se marier, mais alors du coup le cadavre du mari qui est mort noyé se retrouve entre eux à chaque fois qu'ils fornient, qu'ils ont des plaques de pourriture, parce que c'était immonde. Alors que dans la fantasy, c'est quand même plus sympathique, je veux dire, quand Blanche-Neige embrasse son prince charmant, il n'y a pas des plaques de pourriture qui poussent de partout. Donc, je dirais que la grande différence entre la fantasy...
Oui.
Enfin, en général, quand on embrasse un crapaud, il te transforme en prince charmant, et pas en crapaud encore pire. Mais... c'est possible. Oui, mais après, en général, deux crapauds, ils sont sûrement très heureux ensemble. Bon, voilà, pour dire que la fantasy a cette chose particulière qu'effectivement, la sexualité est un aboutissement, est une récompense, et que ça se finit bien, et que ça se passe bien. Et ce qui, mine de rien, dans notre littérature occidentale au moins, est quand même une chose rarissime, parce qu'à chaque fois qu'il y a du sexe qui intervient quelque part, c'est la catastrophe, puisqu'on est extrêmement judéo-chrétien. L'autre question, c'est le dernier livre de Tolkien. Alors, je ne l'ai pas lu, comme ça, je vais pouvoir passer la parole à des gens qui l'ont lu. Parce que moi, j'ai lu Seigneur des Anneaux, je me suis fait le Silmarillion, et puis après, j'ai fait Non, il y en a un autre avec les légendes de... Contes et légendes inachevées. Et après, j'ai arrêté parce que j'avais lu une interview de Christophe Tolkien et que j'avais envie d'y m'énerver. Et donc, voilà. Après, je suis passée à d'autres littératures. Mais qui a lu Les enfants du Ring?
J'ai pas lu, mais je voudrais dire quand même d'un mot que définir la fantasy comme un conte de fées qui se finit bien me paraît une généralité extrêmement hâtive.
Oui, hein.
Quand même. voilà, je n'irai pas plus loin, mais c'est quand même un peu plus divers et un peu plus compliqué que ça, madame Dupont.
Oui, monsieur Barson.
Non,
c'est impossible. Non, on va y passer des heures, on va se dire des gros mots.
On ne va pas au... Enfin, on a deux jours pour en parler, on ne va pas tout régler lors de la première table ronde. Surtout pas en lançant des assertions comme il n'y a pas de désir chez Tolkien ou je ne sais quoi. Il y avait une dernière question à côté de moi.
Bonjour, merci pour vos témoignages. Je voulais rebondir justement sur vos différentes expériences et le recadrer par rapport à l'intitulé de cette table ronde, Au cœur du genre. Et est-ce que l'on ne peut pas parler plutôt d'une littérature qui se cite, enfin, de genre au pluriel? Et je le prendrai dans la double acception du terme, c'est-à-dire des genres, dans le sens où vos interventions ont montré que la fantaisie n'était pas réductible à tel ou tel aspect, mais qu'il y avait une pluralité des genres. Et déjà, donc, il me semblait intéressant de pointer du doigt sur cet aspect des choses. Et deuxième aspect, donc, dans cette double acception du terme, les genres au pluriel, donc au niveau des rapports sexuels que vous... Donc, on aborde depuis tout à l'heure. Et moi, je suis surpris de voir une quasi-parité... devant moi, et moi qui ai fait du jeu de rôle étant plus jeune aussi, j'avais l'impression d'évoluer dans une maison des garçons où il n'y avait que des garçons qui évoluaient, et là je suis surpris et agréablement surpris de voir cette quasi-parité. Et donc, est-ce que la fantasy, ce n'est pas une littérature des genres? Donc, dans les deux sens du terme.
Waouh. C'est beau, ça. C'est la question de la féminisation du genre. Ceci dit, quelqu'un veut peut-être répondre. Par exemple, est-ce que...
Je vais essayer, oui. En fait... Zouf, haut et fort. Donc,
on prend encore une question.
Alors que la, sur la, effectivement, la pluralité des genres, je crois qu'il y a eu tellement d'étiquettes de dark fantasy, high fantasy, light fantasy, urban fantasy, que finalement, je crois que la fantasy finit par devenir quelque chose d'une espèce de monstre complètement protéiforme qui change, qui se multiplie. Mais c'est, après, ça, c'est mes obsessions de chercheuse à moi qui reviennent, mais j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus ça, avec des constellations qui vont être finalement faites par les univers des auteurs, des univers qui peuvent se toucher, qui peuvent se répondre. Et quant au genre féminin-masculin de fantasy, c'est vrai qu'il y aura une table ronde ce soir. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait plus d'auteurs femmes de fantasy. Je ne sais pas trop si c'est vrai, je n'ai pas fait de statistiques. Mais je pense qu'il y a, en tout cas, pour revenir à des questions un peu plus matérialistes, qu'il y a de plus en plus de sexe en fantasy. Peut-être grâce à Catherine. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et en fait, ça permet aussi d'aborder des thèmes comme justement l'homosexualité, comme aussi la transsexualité, qui, il me semble, n'étaient pas forcément abordés avant. Mais alors là, je m'aventure dans des territoires que je connais pas forcément très bien. Peut-être que quelqu'un peut répondre. Non, sur la tronche.
Je dirais très rapidement que ça fait une bonne dizaine d'années que l'érotisme est extrêmement présent dans la fantasy américaine. Découvrez par exemple aux belles éditions Bragelonne l'œuvre de Jacqueline Carré, que Shell, qui est le chef d'œuvre de la fantasy érotique. Et que évidemment, oui, en effet, il y a de plus en plus, mais j'empiéterai pas sur le débat de ce soir, mais en termes vu d'un point de vue d'éditeur, oui, depuis en gros la pionnière, pionnière en tant qu'elle a lancé toute une génération et toute une école, Marion Zimmer Bradley, ce sont les femmes qui ont changé la fantasy ces 25 dernières années, majoritairement aux États-Unis.
Moi, je voudrais juste rajouter que si on va vraiment aux sources et qu'on va dans les mythes du sexe, il y en avait toujours, les dieux ont toujours bien copulé, à voile et à vapeur.
Tout à fait vrai.
Sur cette joyeuse conclusion, je sonne la récréation, donc nous avons des viennoiseries fraîches et du café.
Je voudrais conclure, moi, en disant que là, vous avez entendu des auteurs. Les auteurs, il faut les lire, il faut acheter leurs livres. Donc, je vous invite à découvrir les œuvres diverses et multiples de tous les auteurs qui ont témoigné ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention.